Pour parler de caméra avec de l'intelligence dedans pour suivre un visage, j'ai souhaité inviter un développeur qui travaille dans la publicité contextuelle avec des caméras. Et comme c'est un vieux complice, je suis intimement persuadé qu'il ne va pas se la jouer timide devant nos camés. Non, pardon, devant nos micros déjà. Nous recevons donc Guillaume Lemoine, Chief Product Officer chez Fittingbox, Senior Software Architect, expert en technologie de publicité enrichie et capable de jurer lors d'une démo de son produit phare devant 2000 investisseurs potentiels à Londres. Donc déjà, là, moi, je dis respect.
CPU carré petit utile.
Quoi ?
C'était pas 2000.
C'était pas 2000. Non, mais c'était beau quand même. C'était
ouais,
beau.
C'est encore sur
Donc, oui, donc c'était, on peut le dire, c'était à Le Web en 2012. Et...
Donne pas trop d'infos hein, parce qu'après, on va me retrouver quand même.
Guillaume, comment es-tu venu à travailler sur l'image et la reconnaissance de forme ?
Ah, parce que j'aime ça. Moi, c'est, voilà. C'est depuis le temps que je suis tout petit. Je voulais travailler dans le cinéma à la base. J'ai regardé pour faire une école d'effets spéciaux et tout ça, et comme j'avais aucun talent en termes de dessin et en termes de tout ça, quoi, j'étais pas un artiste du tout, je me suis dit bah, je vais plutôt faire la partie mathématique où j'avais plus de, de dons, quoi.
Ouais. Voilà. Et après, donc, tu avais fait, tu étais dans une boîte où on a fait de la pornographie tous les deux, pensant à la caméra.
Non, ouais. Mais tu as la boîte faisait de la pornographie, s'il te plaît.
Exactement. Mais par contre, tu as fait donc une application qui était formidable, qui était de la vidéo où tu mappais de la couleur, voire des images sur les publicités pour personnaliser.
Voilà, c'était à l'époque, c'était Touchalize et on avait créé tout un concept comme ça pour pouvoir interagir sur la vidéo en temps réel. Typiquement sur un défilé de mode, et quand on cliquait sur une robe, et ben on changeait sa couleur en temps réel et on pouvait regarder.
Ou la couleur d'une voiture.
Ou la voiture. Voilà.
Ça, ouais,
c'était... Donc, le premier use case, ouais, c'était ça. C'était la Renault. Et, voilà.
C'était, pas mal. C'était quand même assez formidable. Je sais pas si d'ailleurs, si tu as encore des vidéos, on les mettra en référence sur cpu.pm. Ouais. Alors normalement, on ne fait pas de promo, mais peux-tu expliquer quel produit tu gères chez Fittingbox et comment marche-t-il ?
Fittingbox, en fait, c'est une boîte qui a été créée en 2006 et qui fait en fait du tracking de visage et d'insertion d'objets 3D sur le visage et en l'occurrence des lunettes. Donc on a un gros focus sur l'industrie de la lunette. Pour faire un peu de similarité, ce que vous voyez depuis un an sur Facebook et Snapchat...
Okay, oui, non, c'est dans le micro qu'il faut parler. Voilà.
Ce que vous voyez depuis un an sur Facebook et Snapchat, ça fait à peu près 10 ans qu'on le fait chez Fittingbox. Et donc moi, en fait, je m'occupe... Alors, il y a toute une grosse partie R&D avec des chercheurs qui est gérée par un des fondateurs. Et moi, je m'occupe plus de la partie produit. Donc mettre le papier cadeau autour, les interfaces et tout ça, l'expérience utilisateur pour faire des choses un peu sympathiques.
Donc en fait, pour résumer, c'est un grand écran qui est dans la vitrine d'un lunetier avec une petite caméra à côté, de la logique derrière.
C'est un des produits, ça. En fait, le but de la société, et c'est un peu la tagline, c'est de remplacer le miroir chez un opticien. Voilà. C'est vraiment remplacer le miroir et puis de faire un miroir augmenté.
Donc, est-ce que ces données sont anonymes ? Est-ce que la machine est autonome ou elle est connectée en permanence et le calcul se fait in the cloud ?
Non, la machine est autonome. Alors, ça dépend des parties. Il y a des parties, des fois, et des produits. Il y a des parties qui se font majoritairement, en fait, sur le device. Et après, effectivement, il y a quelques parties aussi des rendus qui sont faits dans le cloud. Mais en fait, on n'a aucune donnée, en fait, sur la personne à proprement dit.
D'accord. Alors, si tu n'as pas de données sur la personne proprement dite, est-ce que tu peux dévoiler si oui ou non ça marche, ça attire le chaland ?
Ah oui, ça marche. Ah oui,
ça cartonne.
Ah ouais, mais ça, là, surtout, alors la vitrine.
C'est le côté interactif, le côté ludique.
Ah bah la vitrine aujourd'hui, là où typiquement sur des vitrines qui sont installées en centre-ville, là où les gens passent seulement, là les gens s'arrêtent et passent quelques minutes au lieu de quelques secondes devant la vitrine. Donc ça intéresse et ça interpelle. Ouais.
Et d'après toi, alors ça c'est une question qui est purement personnelle, mais est-ce que tu crois que je devrais changer de lunettes ?
Peut-être, mais j'ai une super appli de visagisme pour ça, donc je peux voilà.
On va peut-être l'essayer tout à l'heure après l'enregistrement. Les planos publicitaires font-ils de la reconnaissance de visage ?
Ma connaissance, aujourd'hui en France, on n'en a pas forcément beaucoup, mais ça commence à venir. Voilà, j'ai vu des choses au Japon notamment, ou en Corée du Sud, où effectivement il y avait attraper le visage de la personne, déduire ses émotions, son sexe, et proposer une publicité contextuelle. Nous, on n'est pas trop là-dessus encore parce que c'est un peu compliqué.
Mmh. Oui, parce
et
que
aujourd'hui, si on se trompe, voilà, on va proposer des lunettes de femme à un homme ou vice versa, ça risque de vexer. Donc, on n'est pas sur ce genre de techno.
Ouais, c'est vrai qu'en plus l'info, elle a été dévoilée parce qu'il y avait une de ces bécanes qui avait planté et du coup, on voyait les logs et du coup, les gens. Ah mince, il y a tout ça, puisque donc dans les logs, il y avait l'âge supposé et tout.
Ouais,
c'est impressionnant quand même.
Oui, mais tout ça, c'est avec du machine learning hein, derrière. Mmh. Et ils essayent effectivement de déduire un certain nombre de choses. Mais comme tu disais un peu dans l'introduction, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur du 100%. Donc voilà, il faut choisir son combat. Quoi.
Oui, pardon, Solarus. Il y avait aussi un usage qui était assez amusant. Alors, je précise quand même que le soir où on enregistre, quand même, il y a une émission après sur les ordis soviétiques. C'est une opération qui a été faite en Russie. Comme il y a un embargo vis-à-vis de la Russie sur l'envahissement de l'Ukraine, la Russie a décrété elle aussi un embargo vis-à-vis des produits européens. Et il y a un marchand de spiritueux à Moscou qui donc a fait faire un panneau publicitaire qui change quand il voit des policiers. Alors, je sais pas si tu as vu la vidéo, Solarus, ouais, peut-être.
Ouais, je l'ai vu. C'est le but, voilà, c'est d'échapper effectivement à l'embargo, à la sanction. Dès qu'un policier est détecté, toutes les pubs pour l'alcool d'origine européenne sont changées par d'autres publicités.
Donc, je trouvais ça assez amusant quand même d'en parler.
Ah, c'est un peu plus facile à détecter parce qu'un uniforme de policier russe est quand même assez unique, quoi. Donc
unique, c'est-à-dire chacun a le sien ou c'est. Ça ressemble à des personnages de manga, je sais pas. En tout cas. Ok, on a beaucoup de choses effectivement à dire, mais quand même néanmoins on va relativement vite, donc on a un petit peu de temps. On a fait cette émission à cause d'un événement assez particulier, c'est-à-dire que Apple a annoncé qu'ils allaient donc proposer une solution sur leur iPhone. Qui existe déjà, c'est pas une nouveauté, ça existe dans Windows 10, ça existe chez Samsung, qui est de déverrouiller un écran à partir d'un visage. Alors déjà, est-ce que tu as regardé les caractéristiques de l'iPhone X, qui au moment où on enregistre n'est pas encore sorti ?
Ah oui, j'ai regardé les caractéristiques, tu me connais aussi personnellement, donc...
Ouais, t'as un petit peu...
ouais, j'ai un petit peu du côté obscur de ce côté-là, donc...
Non, blanc et immaculé.
Ouais, peut-être, ouais. peut-être. Mais oui, effectivement, et c'est là-dessus où, en fait, justement, c'est sur la partie caractéristique où ça se différencie par rapport à toutes les solutions qui existent. Aujourd'hui, une solution de détection de visage se fait exclusivement par une webcam. Et donc, du coup, on est en pur 2D. On voit un visage comme si on voyait une photo ou un poster. Et là, avec la technologie qu'ils ont mis et les nouveaux capteurs, on va voir le visage en 3D. Et ça, c'est là-dessus où ça change par rapport à ce qui existe actuellement. C'est les seuls à faire ça aujourd'hui dans un téléphone.
Oh non, on ne pourra plus utiliser de photos pour tromper l'appareil.
Non, les photos, ça ne fonctionnera plus.
C'est vrai que ça a très bien marché sur Samsung, ça marche très bien sur Windows 10.
Ouais, mais c'est de la reconnaissance 2D, donc c'est comme si vous fermez un œil et puis on vous montre une photo. D'ailleurs, vous n'avez aucun volume, vous n'avez rien, donc c'est l'ordinateur, il se trompe et ça se déverrouille. Tandis que là, ça ne sera pas possible. Et je pense, après, j'ai pas l'outil en main, mais d'après ce qu'ils ont montré, j'ai suivi un peu la keynote et ils ont dit que ça ne marchait pas non plus sur des masques. Donc sur le fait de scanner un visage et d'en faire un masque, ça marche pas. Donc je pense qu'il y a aussi une autre composante biométrique qui peut être la chaleur du visage ou des choses comme ça. Quoi.
Ouais, tu parles d'une scène quand même de la keynote qui ressemblait beaucoup à la saison 6 de Game of Thrones.
Voilà, c'est ça exactement.
Du dieu visage où on a des visages. Alors ils disent qu'ils ont fait appel à des spécialistes d'Hollywood qui savent faire justement reconstituer des visages et que donc ils ont essayé de tromper la machine avec. Est-ce que tu en es vraiment persuadé ou non ?
Je suis curieux de voir. Mais parce que aujourd'hui, je ne peux pas dire oui ou non. Et puis, je pense que ça va être compliqué à vérifier. Parce qu'à part d'imprimer un visage en 3D, je pense que ça sera compliqué à vérifier. Mais là, ce qui est sûr, c'est que les technologies utilisées dans l'iPhone X, ça va être une technologie qui va voir en 3D le visage. Et ça, avec une matrice de 30 000 points. Donc,
Faudra attendre le prochain Chaos Communication Congress pour voir le système être mis en défaut.
Ouais, fin décembre, on l'attend avec beaucoup d'impatience pour le bazar. Peut-être une question depuis le standard ?
Ouais, on a une question du standard.
Parce qu'on est en public.
Est-ce que les sculpteurs du musée Grévin pourraient hacker le système ?
Bah c'est à tester.
Ah, à tester, ouais.
À tester.
à tester, ce serait à voir. Ce que l'on sait, c'est que, donc, pour l'instant, sur cette bécane, cette fonction, ils appellent ça la TrueDiff Camera, et serait un descendant de la Kinect, vu qu'elle serait conçue par les mêmes entreprises.
Oui, exactement. C'est le même type de projecteur, mais en plus petit. Grosso modo, pour prendre une analogie, c'est un peu comme si vous preniez une passoire et vous mettiez une lampe torche à l'intérieur. Voilà, ça projette des points sur le mur, et plus vous êtes près du mur, plus les points seraient petits et serrés, plus vous êtes loin, en fait, plus les points sont gros et plus ils sont espacés. Et ça, la caméra est capable d'analyser la distance entre les points et la taille des points, et donc du coup, on crée un maillage 3D, quoi.
Mais on est quand même dans l'embarqué. Donc l'embarqué, ça doit quand même sucer vachement les batteries, quoi.
Bah, c'est de l'infrarouge. Après, c'est pareil, c'est à tester. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai pas la réponse, je l'ai pas en main, et on sera une des premières sociétés à sauter sur l'occasion de l'acheter, parce que vu notre cœur d'activité, voilà, on est très très curieux. Mais ça ouvre pas mal de champs des possibles dans notre industrie. Ouais.
Donc on a parlé Windows 10, un système de déblocage du visage qui marche donc quand la machine est verrouillée, donc la caméra se met en route. D'ailleurs, là, j'aime beaucoup l'iconographie, c'est un œil qui regarde et qui te dit qu'il faut regarder en face. J'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait donc aussi Samsung qui l'avait proposé, qui l'a très vite, parce que le coup de déverrouiller avec des photocopies de cartes d'identité,
ça craint.
Ah, ça craint. Ça craint sauvage, quoi.
Ouais, ça craint. Et là, ce que Apple vend, c'est que si en plus on n'a pas envie de déverrouiller, on peut fermer les yeux et on peut même, sous la contrainte, théoriquement, on ne doit pas pouvoir déverrouiller le téléphone. Donc, à voir. C'est pareil, moi je suis très curieux de tester. Je ne vais pas faire un jugement de valeur maintenant. Mais...
Apple a donné un chiffre comme quoi c'était nettement plus fiable que le déverrouillage par empreinte et que c'est pour ça qu'ils ont donné le déverrouillage par empreinte. Mais quand même.
Non, c'est pas pour ça qu'ils l'abandonnent, c'est sûr et certain que c'est pas pour ça qu'ils l'abandonnent.
C'est que c'est plus plat, ça permet d'avoir un écran plus grand, tu penses ?
Ouais. Et puis même, ça, voilà, encore une fois, ça ouvre le champ des possibles d'un point de vue réalité augmentée. Aujourd'hui, la hype qu'il y a autour de cette industrie-là, c'est. Voilà.
Il y a plus d'applications à faire avec une caméra 3D faciale qu'avec un lecteur d'empreintes.
3D facial, et après, ça sera pourquoi pas 3D derrière aussi, sur l'arrière du téléphone. Voilà, j'ai vu
non, il tenait pas à dire ce que vous pensez derrière, n'ayez pas l'esprit aussi mal tourné.
C'est ça, et sur la caméra arrière du téléphone, et sur des iPads ou sur des tablettes, et voilà, donc le fait. Aujourd'hui, les téléphones. Et toutes les machines ne sont pas capables de voir en 3D. Avec ce type de technologie-là, ils vont l'être. Donc ça va ouvrir tout un champ d'applications sur... je vais scanner la pièce dans laquelle vous êtes et puis poser des choses sur la table, des choses comme ça.
C'est vrai que quand même, entre la Kinect de la première Xbox où c'était arrivé la 360 et celle de la Xbox One, le saut qualitatif était très impressionnant. Et la première chose qui a surpris, c'est que Microsoft tenait à verrouiller le truc. Et puis au bout d'un moment, quand ils ont vu que le premier driver qui était dispo, c'était en 2011, si je me souviens bien, sur Linux et même dans le navigateur Chrome, ils ont lâché la brise, ils ont dit OK, on libère le truc.
Il y a Intel et il y a Microsoft, mais il y a Intel aussi. Intel a beaucoup travaillé sur des caméras comme ça. Et ils ont songé à une époque, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à les intégrer dans des portables. Donc c'est une trend. Alors là, Apple l'a mis en caméra faciale sur un champ très limité, parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire pour tester les technologies. Mais le champ des possibles derrière sur ce type de caméra, il est assez colossal. Quoi.
N'empêche, c'est de la biométrie, il y a une marge d'incertitude. Et nous sommes donc avec Guillaume Lemoine, qui est Chief Product Officer chez Fittingbox, qui fait donc une solution qui vous dévisage et qui vous dit « tu serais vachement bien avec ces lunettes ». Je suppose. D'ailleurs, rien que pour rire, donc il y a forcément une marge d'incertitude sur les logiciels de reconnaissance faciale. Ça ne doit pas marcher. T'es pas forcément de face, de côté, tout ça.
Ah, mais il y a pas mal de calculs 3D quand même qui sont faits pour calculer la pose et s'assurer qu'en fait la personne qu'on a en face de nous regarde de côté, tout ça. Donc il y a des incertitudes. La plus grosse qu'on avait jusqu'à présent, c'était justement sur la taille, je pense à la taille des lunettes. C'est qu'on pouvait difficilement savoir si on avait quelqu'un avec une grosse tête qui était loin de la caméra ou quelqu'un avec une petite tête qui était près de la caméra. Donc c'était là-dessus qui était un peu compliqué d'ajuster la bonne taille des lunettes. Mais
ça fait un peu David Lynch, là, ouais. Comme cadrage. Et pour le coup, justement, c'est quoi ? Les lunettes sont vectorielles et sont adaptées en temps réel ou bien ce sont des modèles ?
Ah, c'est des modèles 3D. C'est des modèles 3D, en fait.
Ah ouais ?
On a la plus grosse base de données au monde de modèles 3D de lunettes. Mmh. Parce qu'un truc qui est assez drôle chez les fabricants, il y en a très peu qui modélisent leurs lunettes en 3D. Il y a beaucoup de croquis encore qui sont faits à la main. Donc on réceptionne les lunettes, on les scanne avec des scanners qu'on a inventés. Et puis après... Donc il y a toute cette partie-là.
Ah, ça reste très artisanal.
À côté lunettier, oui.
C'est fait à la tête du client ou quoi ?
Non, pas complètement.
Ah d'accord.
Et okay. Est-ce qu'on peut les imprimer avec une imprimante 3D ?
Il y a certaines paires, oui. Et ça commence à se faire aussi.
D'accord. Ah oui, et du coup, c'est parce que vous avez une demande, il y a une grande chaîne qui s'investit là-dedans, ou c'est parce que vous proposez justement de l'innovation ?
Sûr.
C'est comment marche en fait Fittingbox ? C'est une demande du client, ou bien c'est vous qui allez chercher
dans l'innovation ? On propose des solutions pour des grands groupes. Voilà, donc on travaille avec des grandes enseignes, type Optique 2000, type Atoll, mm-hmm. type Vision Source aux États-Unis. Donc on a pas mal de clients, je crois qu'on a 4000 ou 5000 clients en tout.
Ah ouais, mal. Voilà, avec les States.
Avec les States, avec, avec l'Italie et tout ça. Tu connais mon accent américain. Donc,
à peu près autant que le mien. Mais seul Chris O'Brien pourrait en juger de la catastrophe que je suis. Donc il y a quand même une incertitude. Il y a un moment, quand même, dans la reconnaissance des visages, où il y a une vraie explosion qui se fait. C'est en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quel a été le fait que la technologie, tout d'un coup, est devenue beaucoup plus fiable ?
Je pense que c'est les résultats de recherche. Et en fait, au fur et à mesure, les puissances de calcul aussi des PC et des processeurs mis à disposition. En fait, faire de la reconnaissance et de l'analyse d'image, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Donc voilà, donc plus les CPU seront puissants, justement les CPU, plus on arrivera à calculer rapidement, et avec l'avènement aussi des calculs sur GPU. Désolé, c'est pas GPU.
Oui, donc on passe sur Nvidia, sur la carte graphique.
C'est le traitement de pixels est encore beaucoup plus rapide. Et voilà, donc je pense que c'est l'avènement de ces deux technologies-là, la rapidité et le calcul parallèle qui fait que on a commencé à avoir des technologies et en plus avec l'apparition du machine learning aussi qui rajoute encore une couche sur la reconnaissance quoi.
Et en fait bizarrement le capteur d'empreinte digitale sur un smartphone ou sur un clavier et tout ça, c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire il y a un petit peu d'incertitude, tout le monde croyait que ça marcherait super bien. D'ailleurs depuis les débuts la police scientifique on les considère comme confidentes car quasi uniques. Sauf que c'est vrai si on a l'intégralité de l'empreinte. Mmh. Et en fait, bien souvent, on est seulement sur une petite partie de l'empreinte qui est de plus en plus réduite parce qu'on veut mettre plus d'espace pour l'écran. Et il y a une étude qui est sortie il y a un mois à peu près où des scientifiques ont dit, voilà, vous imprimez cette empreinte, vous pouvez déverrouiller tout téléphone portable possible. C'est hallucinant.
Ah oui, c'est hallucinant. Mais après, il y a effectivement tout ce que tu dis, mais... D'un point de vue utilité, un capteur d'empreinte, ça ne sert à rien. Voilà. À part à déloquer un téléphone, ça ne sert strictement à rien. Et donc, du coup, effectivement, on a de la confidentialité et puis ça permet de s'en servir comme une clé. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout dans l'aspect smartphone et l'aspect des constructeurs, on cherche à mettre des nouvelles features, à nous mettre des nouvelles choses, des choses qui sont utiles et laisser l'imagination des développeurs aller plus loin. Et là, avec un capteur d'empreinte, on fait rien, quoi.
Donc, alors, ça veut dire que quand une banque dit vous pouvez payer avec l'empreinte de votre voix ou de votre doigt, c'est encore plus catastrophique que le paiement NFC ou quoi ?
Bon, je pense pas que ce soit plus catastrophique que du paiement NFC, honnêtement.
Rien n'est plus mauvais en termes de sécurité que le paiement NFC, alors.
Je ne sais pas, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, donc je ne dirais pas là-dessus. Mais bon.
Ouais. L'empreinte digitale, c'est vraiment un fantasme du passé, quoi. C'était la science-fiction des années 80-90. Et puis, quand on a eu la technologie pour s'en servir, effectivement, on a compris que ça ne servira à rien, quoi.
Donc, quand même, il y a une incertitude qui est appliquée quand même sur la reconnaissance d'image. On est obligé, pour reconnaître un visage, on laisse du mou à la machine ou on est plus ou moins strict.
Ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Hein. Pour ce que vous voyez aujourd'hui dans un Snapchat, Facebook ou nous qui faisons des sillages virtuels, on n'a pas besoin de savoir qui est la personne. On a juste besoin de savoir où est son nez, où sont ses yeux, où sont ses oreilles, et venir positionner les aimants sur le visage. Donc, l'incertitude, si tu veux, elle est elle est utile que si on cherche à faire de l'identification, comme sur l'iPhone X qui va sortir. Et je pense qu'ils mettent un degré d'incertitude, mais un degré à 1 sur 1 million, comme ils ont annoncé pendant la keynote. Quoi.
Et en fait, la programmation derrière, c'est quoi ? C'est des réseaux neuronaux convulsifs c'est ce genre de choses ?
Bah, c'est du. Derrière, on est sur des bases en C++ et des technologies de reconnaissance d'image avec de l'apprentissage. On a beaucoup de technos, justement, du machine learning. Parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des banques d'images et c'est pour ça aujourd'hui que Google vous propose tous un super stockage de vos photos gratuitement.
Ah, merci Picasa, hein. Et puis après, c'est « Ah mince, il me reconnaît super bien !»
Voilà, les contextes et tout ça. Aujourd'hui, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de faire de l'apprentissage. Pour faire de l'apprentissage, on a besoin de data. Et ça, Google l'a bien compris en proposant... du stockage gratuit de photos, et ben il apprend tout de ce que vous lui donnez à manger.
Et avec les captchas aussi. Quand il demande à un utilisateur de désigner la voiture, le panneau routier, tout ça, quoi.
Ouais, sur les captchas, il y a une partie qui effectivement il sait pour vérifier, et l'autre partie qui sait pas pour apprendre, quoi. Donc.
Est-ce que tu penses que c'est, alors là je suis désolé, on entame direct les questions qui fâchent, mais est-ce que tu penses que c'est compliant JRPD?
T'es pas au courant.
Ah, ouais. Oh, le 25 mai 2018, le référentiel sur la vie privée. D'accord, ok.
Je suis pas juriste, hein, je suis désolé. Je suis désolé, celui-là, je l'ai pas.
Voilà, ok, d'accord. Non, mais je voulais pas te piéger. Non, mais reste là. Bon, enfin. Quand même, on n'a pas une donnée qui est super qualifiante quand même pour reconnaître quelqu'un en soi.
Ouais, après ça dépend de ce qu'on appelle qualifiant et ce qu'on cherche à faire, quoi. C'est sûr et certain qu'il y a toujours un taux d'erreur, on va pas se voiler la face, il y a un taux d'erreur et aujourd'hui quand on fait des portraits robots pour essayer de trouver quelqu'un, il y a un énorme taux d'erreur parce qu'on part d'un dessin et puis mais on utilise quand même ça pour essayer de retrouver des gens. Donc oui, il y a un taux d'erreur. Après à quel point c'est moins insécure qu'une combinaison de coffres ou voilà.
Mais ça reste dépendant de l'usage. Ce qui s'est fait, par exemple, lors du dernier festival de Notting Hill, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand festival de black music en Europe, c'est à Londres, c'est donc dans le quartier Notting Hill, qui est un quartier plutôt défavorisé, hein, faut pas croire les films. La police métropolitaine de Londres a mis de la logique derrière toutes ces caméras pour essayer d'arrêter des terroristes, ils ont arrêté une cinquantaine de personnes. Sur les cinquantaines de personnes arrêtées, il n'y en a qu'une qui était effectivement recherchée, mais dont qui avait purgé sa peine de prison depuis 15 ans et qui n'était plus du tout recherchée. C'était une vieille scorie. Bref, c'est un échec catastrophique. On ne peut pas s'en servir pour reconnaître à coup sûr quelqu'un.
Non, mais les faux positifs.
Ouais. Puis de toute façon, tant qu'on utilisera aussi des dispositifs de vision 2D, ça sera assez pour reconstruire une image. Il y a pas de secret. C'est soit un projecteur, soit deux caméras, quoi.
Donc, plus c'était peut-être la résolution et la taille de.
Faut filmer en 4K. Il faut filmer avec deux voire trois caméras pour réussir à reconstruire un visage en 3D. Aujourd'hui, je pense que si on se base sur les caméras qui sont posées sur des poteaux en ville pour reconnaître des gens, oui, on va avoir des taux de faux positifs qui sont énormes, quoi.
Là, tu es en train de faire monter ma note de mes impôts locaux, là. Attends,
je vais te multiplier par 3 le nombre de caméras, c'est moche.
Ah, et puis des très hautes gammes. Bon, ça tombe bien, il y a des gens qui vont les démonter après, donc ils vont se faire plaisir. Que fait-on si le visage bouge ? Moi, je pense notamment, par exemple, à ce sportif français qui a été agressé, Pierre-Ambroise Boss. Je ne sais pas si vous avez vu, le type était beau gosse avant son agression, et puis quand on voit avec la mâchoire pendante et tout, complètement tuméfié.
En prend son téléphone ? Non, c'est pas infaillible, encore une fois. Hein. Il propose de déverrouiller avec un code, il y a tout. Quoi,
donc il y a quand même la solution de secours à côté. Ouais.
Ah oui, mais c'est obligé. C'est
sauf que tu n'utilises plus ton code, donc est-ce que tu t'en souviens encore ? C'est la grande question. Quoi. D'ailleurs, moi, ça me rappelle une blague qui a été racontée sur Twitter par Garry Kasparov. Alors, pour ceux qui connaissent pas Garry Kasparov, c'est un ancien champion mondial d'échecs, mais c'est surtout un opposant à Poutine. Et il dit que dans les commissariats moscovites, on n'a plus le droit de frapper le visage tant que l'iPhone n'est pas encore déverrouillé. Donc, moi, ça me fait rire. Mais...
Et les yeux ouverts, hein, donc il va falloir aussi écarquiller les yeux pour...
Ouais, avec les doigts et tout, ouais,
ça va être gore. Hein.
Ouh là, tu me fais peur. Du coup, donc, l'acte volontaire pour déverrouiller, c'est de regarder et ne pas avoir un regard fixe, apparemment.
Ouais, apparemment, c'est ça. Et apparemment, il y aura même une procédure d'urgence si on s'aperçoit qu'on va essayer de déverrouiller sous la contrainte pour, en appuyant 3 ou 4 fois sur le bouton power, désactiver la reconnaissance faciale. Donc, ils ont pensé à des choses. Après, on verra dans la réalité ce que ça va donner, quoi.
Ouais, on attendra. De toute façon, il n'est pas encore sorti. Non. Et puis voilà, en cadeau de Noël, Apple va peut-être devoir dire « Ah mince, ces Allemands nous ont bien enflés ». Lors du CCC, on verra ce qu'il en est.
Ouais.
Et c'est CPU, donc nous sommes avec Guillaume Lemoine qui est Chief Product Officer chez Fittingbox. Je suis désolé si ma langue fourche.
Je peux dire directeur produit, c'est plus facile.
Est-ce que justement tu as essayé les maquillages pour voir ce que ça les maquillages qui sont censés fausser la reconnaissance faciale pour voir ce que ça donnait en fait sur tes propres produits?
On n'a pas encore testé tout ça. Encore une fois, nous on cherche pas à identifier les gens précisément. Mmh. On cherche juste à...
Mais même pas pour le fun.
Ouais.
Non, allez, tu viens avec un appareil, on peut se le faire.
On essaiera à Halloween, ouais, ou au carnaval l'année prochaine, et puis je t'enverrai des photos.
Non, mais sérieux, quoi. Là, on est à Mixer Myris en train d'enregistrer au Theta Lab. En mai prochain, au THSF, tu peux venir avec un appareil, amusez-vous à déconner cet engin.
Ouais, peut-être.
Ça peut être rigolo quand même, hein, comme truc à faire. Les lunettes à diode infrarouge, ils ont pas ça actuellement, les lunetiers
Non, pour l'instant ça va.
Parce que ça c'est impressionnant d'ailleurs. C'est vrai que ça se voit pas et en fait ces caméras en prennent plein la tronche.
Ouais, ça fait des éclairs et c'est en fonction de la longueur d'onde aussi. Mais je sais pas tellement si c'est à diode infrarouge ou si c'est plutôt des réfractions qui sont faites pour brouiller la vision de la caméra quoi. Mais c'est vrai que c'est très basique. Hein.
Justement, on parlait du RGPD, donc qui est donc le nouveau règlement européen qui va être mis en œuvre à partir du 25 mai de l'année prochaine. Normalement, les gens ont le droit de demander à garder leur anonymat et à ne pas être suivis publicitairement. Comment on pourrait l'appliquer dans ce cas-là, justement, dans cet univers qui est à la fois celui de la vidéosurveillance publicitaire, de la vidéoprotection étatique et en même temps la parano des lois antiterrorisme.
Qui dit tracking dit reconnaissance. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité ciblée, par exemple, on met un cookie sur l'ordi et puis on arrive à savoir un peu avec l'identifiant que t'es passé sur ce site-là. Bon, ça c'est les technéopublicitaires. Aujourd'hui, sur de la reconnaissance faciale, pour faire de la reconnaissance, encore une fois, il faut identifier le visage et C'est pas aussi simple. Et c'est pas aujourd'hui, à mon sens, hein, un board de publicitaires qui ferait de la recommandation en fonction de du sexe et puis de l'humeur, rentrerait pas dans le cadre de cette loi-là, parce qu'on va pas traquer la personne. On va juste détecter la personne à l'instant T. On sait pas qui c'est, on sait pas voilà, mais on va lui faire une recommandation sur l'instant. Donc ça sera complètement anonyme, mais ça n'empêchera pas à l'aspect publicitaire de le voir. Donc voilà, on verra ce que ça donne.
On va quand même poser des petites questions perso. Tiens, regarde mon PC là, j'ai un petit cache, tu vois, sur mon ordi. Est-ce que toi-même tu as mis un cache sur...
Non, j'ai pas mis de cache.
T'as pas osé?
Je suis pas encore retombé dans cette parano. Ouais. Bon après.
C'est qui tu traites de parano?
Non, je comprends le truc, mais ouais. Aujourd'hui, c'est soit effectivement on est très paranoïaque et on passe son temps à se protéger. Je respecte ça, mais moi j'ai pas envie de passer ce temps-là et je sais pertinemment justement en côtoyant des gens qui passent leur temps à faire ça, je sais pertinemment que ce que j'aurais la force de faire, ça sera pas suffisant.
Donc pour toi, c'est forcément un combat qui est déjà perdu.
C'est pas perdu, c'est encore une fois traquer les gens. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect tracking qui est reconnaître une personne et savoir ce qu'elle fait, et l'amener, voilà. Et ça là-dessus, voilà. Moi je suis complètement contre et c'est pas normal. Après la reconnaissance anonymisée, je pense qu'on aura du mal à passer à travers.
Non, je croyais que tu avais une question à poser. Est-ce que toi-même, tu as mis une caméra de surveillance chez toi ?
Pas encore. Peut-être j'en mettrai une de ces quatre. Mais
uniquement passif, peut-être avec de la logique derrière pour s'amuser un peu, pour rigoler ?
Uniquement passif. Ouais.
Même pas pour savoir à quelle heure rentre le chat, tout ça ?
Non, Je suis geek, mais j'ai un petit, donc j'essaie de passer du temps avec lui, pas trop avec les ordinateurs.
Oui, c'est tout à ton honneur, justement. En dehors de cela, justement, actuellement, donc il y a la vidéosurveillance, il y a une expérience qui a été faite, si je me souviens bien, en 2011, par l'un des fondateurs du Theta Lab, qui était de se faire filmer à une certaine heure et de demander Alexandre Girard, hein, si je me trompe, qui était de se faire filmer à une certaine heure par des caméras qui étaient installées sur les lieux publics. Je rappelle que normalement, il n'y a pas de surveillance possible par des moyens privés sur l'espace public. Et il avait demandé à la mairie à accéder, comme la loi lui l'autorise, à accéder à ses caméras et à trouver les enregistrements. Et d'une manière assez amusante, la mairie se rendait compte qu'ils avaient des caméras qui n'étaient même pas répertoriées. Ils ne savaient pas si c'était à la préfecture ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a une idée actuellement des caméras qui sont qui servent pour les panneaux publicitaires, à peu près combien il y en a installées en France ?
Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas.
Vous, c'est un millier d'appareils, donc à peu près.
En vitrine, on en a moins que ça. Après, c'est à l'intérieur, c'est dans les boutiques.
Ça, donc, c'est pas vers le.
C'est pas vers la rue.
Ça, c'est pas sûr. Vers la rue.
Non.
C'est interdit.
On a une partie. Sur dans le magasin et une partie vers la rue. Ce qui est interdit, en fait, c'est d'enregistrer. Et on n'enregistre pas. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. On n'enregistre pas les datas. On a tout le flux en local et on le traite en local. Mais
d'accord.
On ne s'amuse pas à enregistrer les allées et venues des gens. Et voilà. Donc, sur cette partie confidentialité, on...
Ouais. Est-ce qu'on peut estimer, par contre, que... oui, alors, petit point juridique, d'ailleurs. Les caméras, même pour la force publique, ce n'est pas plus d'un mois de séquestre. Hein. Donc... Et on a droit d'accès aux caméras à condition que théoriquement on soit seul, un truc comme ça. Par contre, on disait que ça marchait bien au niveau commercial. Donc là, pour le coup, pour les lunettes, est-ce que tu penses que ça marcherait aussi pour de l'essayage de vêtements ou ce genre de choses ?
Potentiellement, oui. Après, des technologies, moi, de ce que j'en ai vu, c'est que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des aspects réalistes. Déjà, en fait, sur la.
Ça ressemblerait trop à un Meuporg ?
Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. T'as un peu trop regardé France 2.
Je suis obligé. Ouais. Culture française.
Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est ça. Voilà, il y a deux aspects en fait sur la réalité augmentée. Il y a l'aspect tracking de la réalité et tracking du visage. Donc ça, c'est un aspect important. Mais encore, il y a un autre aspect aussi qui est très très important, c'est la lumière. Aujourd'hui, pour avoir du réalisme, par exemple, quand je te regarde, je te vois toi avec tes paires de lunettes, mais je vois aussi sur ton visage l'ombre de la paire, la réfraction du verre. Pardon. Qui vient sur tes yeux. Donc il y a tout cet aspect-là qui vient du calcul de l'environnement et de la lumière. Et donc pour en arriver à avoir un essayage de vêtements, on est...
Donc la diffusion, la réfraction et tout ça, donc du coup le tissu n'est pas forcément facilement modélable.
Voilà.
Actuellement c'est un petit peu cartoon du coup les lunettes que vous mappez ?
Ah, pas du tout. Alors c'est là-dessus on a beaucoup travaillé. On a eu toute une... on est assez fiers cette année, c'est la première année où les fabricants Osimo nous disent justement qu'on a un niveau satisfaisant de qualité pour et on a fait un 100% quoi, parce que effectivement on a travaillé énormément sur ces aspects lumière et réalité et matérialisation des matériaux, diffusion et tout ça, donc c'est une victoire
plutôt chouette. Actuellement, si quelqu'un veut s'y intéresser, si tu décides peut-être d'embaucher quelqu'un, sur quel techno il faut aller voir?
Alors, si on veut faire du pur reconnaissance visage et tout ça, il faut regarder du machine learning. Et puis après, en termes de techno, c'est du C, C++, du bas niveau.
Il y a OpenCV qui est en Python.
Ouais, il y a OpenCV qui est en Python, mais après, il faut l'utiliser. Donc, toutes les sociétés... qui font de la reconnaissance et tracking.
Pour ceux qui posent des questions, on mettra les liens sur le site cpu.pm justement.
Voilà. Donc, l'utilisent pas forcément, donc il y a effectivement ces parties techno-là. Et après, moi je sais que je recrute pas mal dans mon équipe, mais je recrute surtout sur la partie base de données et front. Donc on est sur du JavaScript, des techno classiques, du NoSQL.
JavaScript, vous êtes prêt déjà vers le. Être embarqué dans un navigateur web, ce genre de choses ?
Ah oui, on a lancé la techno en HTML5.
Tu peux plus.
Ouais, je te montrerai après, mais effectivement, on a lancé la techno en HTML5. Jusqu'à présent, en fait, on faisait du flash pour pouvoir accéder à la caméra. Alors, flash, on sait tous ce que c'est maintenant.
C'est mort.
Voilà, c'est mort. mais maintenant, on fait tout effectivement dans le browser, donc on n'est pas encore en temps réel sur mobile. On fait des essayages photos sur mobile, mais sur PC, oui, on est.
C'est vrai qu'on avait quand même des expériences de traitement temps réel sur la vidéo capturée de la webcam dès 2014, si je me trompe. Mozilla a fait une démonstration dans Firefox où ils extrayaient un fond vert et ils plaquaient des choses derrière.
Ça c'est assez facile à faire parce qu'en fait on travaille directement. Bah, ils en font bien travailler sur l'aspect capture des vidéos et donc du coup en fait c'est de la CSS, donc c'est pas encore trop compliqué de changer un fond vert.
Et arriver à reconnaître un angle, une inclinaison, ce genre de choses, ça reste faisable à partir d'une image 2D où il va vraiment falloir passer par donc ces caméras.
Ça dépend de l'angle de quoi en fait.
De Kinect.
Ça dépend de l'angle de quoi, parce que l'angle d'un visage, oui, ça se fait parce qu'on sait qu'on regarde un visage. Quelque part, quand on s'est fait détecter, en général, quand on a des technologies d'essayage comme ça, on se met en face de la caméra, on regarde, on détecte, il y a la lumière ou l'objet qui apparaît, et seulement après, on vient tourner, parce que effectivement, on est en mode, il y a le mode de détection et après le mode tracking. Quand on passe en mode tracking, on sait qu'on traque un visage, donc c'est beaucoup plus facile à détecter l'angle. Après, sur une lunette. Par exemple, si je prenais une lunette et je voulais la reconnaître, et ben là, c'est là-dessus où le machine learning rentre en compte, parce qu'il faut détecter l'angle et savoir ce qu'on va regarder. La clé de la chose, et aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies jusqu'à maintenant en réalité augmentée qui travaillent avec des marqueurs, parce que justement, le marqueur permettait de savoir l'angle et comment regarder quelque chose. Le fait qu'on arrive à se passer de marqueur, c'est surtout du fait de l'apprentissage et d'augmentation des technologies de machine learning.
Guillaume, mille merci en tout cas d'être venu.
Mais de rien.
D'être venu dans cette friche industrielle au fin fond, au milieu d'un truc artistique, dans un squat de technos complètement allumé. Et surtout d'être prêté au jeu des questions-réponses.
Merci à vous.